Le refrain Jésus, toi qui as promis. Et laisser seulement celle du Père Claude et peut-être celle de la salle de Pignolet où sont réunies plusieurs personnes. Et si nous avons le désir de poser une question ou de participer, nous avons une petite icône en haut de l'écran avec une main. Et donc on peut cliquer sur cette icône pour pouvoir réactiver le micro et que nous puissions vous donner la parole. Voilà. Une autre précision aussi, pour cette intervention va être enregistrée, donc s'il y a des moments où vous entendez mal, ou bien ça coupe un peu, ou si vous avez besoin de réécouter après, vous trouverez sur le site l'enregistrement. Et nous ferons de même pour chaque intervention, juste après l'intervention, l'enregistrement sera disponible sur le site. Est-ce que tous ceux qui sont en ligne entendent bien? Est-ce que ça fonctionne bien? S'il y a un souci, est-ce que vous pouvez vous manifester en levant la main? Ça a l'air de bien fonctionner. Ah, alors Bernadette. Oui, allez-y Bernadette, vous pouvez activer votre micro.
Oui, j'entends bien, merci.
D'accord. Alors, une dernière précision technique. Si vous souhaitez voir en grand le Père Claude, et non pas voir une mosaïque avec des initiales, il vous suffit de faire un clic droit sur la petite photo du Père Claude et d'appuyer sur « Mettre en évidence ». Et comme ça, vous verrez le Père Claude en grand.
On le voit très fin.
Alors, effectivement. Alors, Père Claude, je pense que ça, c'est lié à votre caméra, non? Alors, le Père Claude n'est plus son micro. Père Claude, il faut vous rallumer votre micro. Père Claude, votre micro est désactivé. Voilà. maintenant.
Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Une bonne nuit dans cet esprit de prière, de calme, de repos, et tout en étant loin du centre de Pignolet. Nous portons les grandes exigences de la prière. L'Église a plus que jamais besoin de notre prière au cours de cette retraite. Et nous sommes, je vous le disais hier soir, au cours de la 9e préparatoire à l'Immaculée Conception, et aussi dans ce temps de l'Avent. Alors nous portons les grandes intentions du monde, de l'Église et du Saint-Père dans une prière profonde, autant silencieuse que nous le pouvons, dans les divers lieux de vie. Donc nous avons choisi de sonder le mystère du Christ pendant ces journées, et nous avons commencé hier dans notre introduction en regardant quelques évangiles qui ont nourri l'Église pendant cette première semaine de l'Avent. Et aujourd'hui, notre thème c'est « Qui est Jésus ?» Qui est Jésus ? Si chacun d'entre nous peut assez facilement répondre à cette question, les questions sont extrêmement... les réponses seront extrêmement différenciées. Et si vous voulez, nous allons nous autres interroger essentiellement les textes de l'Évangile pour découvrir comment Jésus a révélé son identité, comment il a dit qui il était. Alors je vais faire un exposé qui ne sera pas très très long. Vous aurez la possibilité de le retrouver ensuite sous forme de fichier et que vous pourrez le relire tranquillement chez vous. Donc ne vous évertuez pas à prendre des notes, essayons d'entrer dans le rythme vous pouvez, en acceptant aussi de ne pas trop butiner dans l'Évangile. Je vais citer un nombre important de textes de l'Évangile que vous pouvez tranquillement retrouver par la suite. D'abord, il faut nous recueillir un instant et demander à l'Esprit Saint de guider nos intelligences, nos esprits, surtout d'animer notre foi, car nous allons maintenant fixer notre regard de foi sur ce qu'il y a de plus profond, de plus original dans notre religion chrétienne, catholique. Et nous allons demander à l'Esprit Saint donc de vivifier ce regard de foi, de lui donner un regard pénétrant et aimant aussi, pour que nous puissions tout à l'heure consacrer un peu de temps à poser notre regard sur ce mystère de Jésus et prier un peu longuement. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en nous le feu de ton amour. Mais d'abord, il faut souligner que la révélation toute nouvelle que Jésus vient nous faire connaître accomplit sans abolir ce que l'Ancien Testament avait déjà révélé. Et voilà pourquoi Jésus reprend à son compte, quand il s'agit du mystère de Dieu, l'affirmation qui domine toute la Bible, à savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un unique Seigneur. Quand on vient lui demander quel est le premier de tous les commandements, Jésus se contente de rappeler le chemin Israël. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, c'est l'unique Seigneur. Ce texte de Marc, chapitre 12, verset 29, reprend le Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Ce texte est capital pour la question qui nous intéresse. Tout ce qui pourra désormais être dit de Dieu, toute vérité nouvelle dévoilée pour nous faire pénétrer dans le mystère de la vie divine, doit s'appuyer sur cette affirmation fondamentale que rien ne pourra jamais mettre en doute. Il y a un seul Dieu. Il ne peut pas y avoir plusieurs dieux. Tout a été fait, créé par lui. Donc, la révélation de l'Ancien Testament est capitale pour bien comprendre ce que Jésus va nous dire de son identité à lui. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu a commencé par révéler les mystères de son unité. Et ce que Jésus a révélé, alors, apparaît dans la lumière de cette révélation ancienne. Encore une fois, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse. Et dans cette lumière ancienne, Jésus laisse entrevoir peu à peu quelque chose de tout à fait nouveau. Il semble d'abord ne pas vouloir s'en tenir aux façons habituelles de parler de Dieu. Aux noms qui sont utilisés d'ordinaire comme Elohim, Adonai, Jésus préfère le mot de Père. Il dit votre Père. Et vous prierez maintenant notre Père. Et pour que les Juifs ne s'y trompent pas, car pour eux, notre Père c'était habituellement Abraham, Jésus précise le Père céleste, notre Père qui est aux cieux. Jésus désigne le Père qui a fait le ciel et la terre. C'est le Père qui nourrit les oiseaux, qui habille les fleurs. C'est, pour tout dire d'un mot, le Créateur de tout ce qui existe, et en particulier des hommes. Ce nom de Père avait été déjà utilisé dans l'Ancien Testament, mais assez rarement pour désigner Dieu. Au contraire, c'est son utilisation habituelle qui est une véritable nouveauté dans la prédication du Christ, constamment le Père. Et surtout, certaines perspectives insoupçonnées jusque-là vont être révélées à partir de ce nom de Père. Quand il s'adresse à Dieu, Jésus prononce un mot que personne avant lui n'aurait osé employer pour appeler Dieu. Il dit « Abba » en araméen, et le mot a frappé ceux qui l'ont entendu, au point que Saint-Marc le rapporte tel quel dans son évangile, au chapitre 14, verset 36. « Abba », c'est en effet le nom que l'on apprenait en araméen, où tous ses enfants, pour désigner leur père. « Abba », c'est l'équivalent à peu près exact de notre français « papa ». Pratiquement le même mot. On imagine la stupeur des contemporains de Jésus. Appeler Dieu « Abba », c'était manifester une familiarité absolument inimaginable. Mais Jésus prend soin de justifier en quelque sorte cette familiarité. Il distingue très nettement la relation qui unit lui au Père et celle qui unit au Père les autres hommes et les créatures. Il dit constamment « mon Père ». Et il oppose une fois « mon Père et votre Père ». Et quand il apprend à prier à ses apôtres, on pourrait imaginer qu'il dise « venez, allons sur la montagne, je vais vous apprendre à prier, prions ensemble, notre Père. » Non, non. Il dit, vous prierez ainsi, notre Père. Pour moi, je l'appelle mon Père. C'est-à-dire, il existe entre nous une intimité, une familiarité rigoureusement unique. Il y a entre toi et moi une relation incommunicable. En face du Père se tient le Fils, ou Huios, comme disent les évangélistes. Le Fils qui est le Fils unique. Et Jésus fait comprendre peu à peu qu'il s'identifie, lui, avec ce Fils. Il est, lui, le Fils, le seul qui soit autorisé à dire « mon Père », un pas, en s'adressant à Dieu. Et si les lecteurs de l'Ancien Testament étaient habitués à cette expression « fils de Dieu », qui est attribuée le plus souvent aux hommes, il est clair pourtant que Jésus entend donner à l'expression un sens particulier, un sens unique, quand il se l'applique à lui-même. Et c'est encore en partant de l'Ancien Testament qu'il va peu à peu révéler alors son propre mystère. Il fait comprendre tout d'abord que s'il est en relation intime avec le Père, c'est qu'il est son envoyé, le Messie annoncé par les prophètes, attendu depuis si longtemps, et attendu comme le Sauveur, comme le Roi, comme le Christ, c'est-à-dire un homme, mais un homme qui dépasse la condition des autres hommes, du fait de sa qualité de Messie. Il est le Fils de l'homme, entrevu par le prophète Daniel. Mais le Christ Jésus a comme mission spéciale d'annoncer la bonne nouvelle du salut et de révéler dans toute la lumière possible le mystère de Dieu, son Père, car seul le Fils connaît vraiment le Père. Il est seul à pouvoir exprimer sa pensée. Il est sa parole. Saint Jean dira « Logos », la parole. En s'identifiant avec la parole de Dieu, l'expression de Dieu, Jésus laisse entendre qu'il est finalement plus qu'un homme. Il est, lui, l'égal de Dieu. Il le fait comprendre par la façon dont il parle dans ses discours. Les prophètes avant lui parlaient toujours au nom de Yahvé, au nom du Seigneur. Ils transmettaient une parole de Dieu, oracle du Seigneur. Jésus, lui, s'exprime comme aucun prophète ne l'aurait osé. Il ne parle pas au nom du Seigneur, il parle en son nom. Et il parle en son nom, alors même qu'il précise qu'il parachève la parole même de Dieu, quand il explique « Il a été dit autrefois, il a été dit autrefois par Dieu, la loi de Moïse, tu ne tueras pas, et c'était une parole dite par Dieu. Eh bien moi, je vous dis, tu ne te fâcheras pas avec ton frère. » C'est une précision concernant la loi de Dieu. Et peu à peu, tout au cours de son ministère public, Jésus s'attribue, ou se laisse attribuer, ce que l'Ancien Testament n'affirmait que de Dieu seulement, comme s'il trouvait normal de prendre à son compte les caractéristiques du monothéisme le plus intransigeant. Non seulement Jésus a le pouvoir de parfaire la loi, on vous a dit, je vous dis, ce qui est déjà quelque chose d'énorme pour les contemporains de Jésus, la loi communiquée par Dieu. Mais il a le droit de réglementer le sabbat. Et ce qui est encore plus exorbitant, il remet les péchés, ce qui est le privilège de Dieu. Il exige qu'on abandonne tout pour le suivre. Autant dire qu'on l'aime de tout son cœur, de toutes ses forces, au même titre que Dieu. Seulement, il fait comprendre que les hommes seront récompensés par lui et en fonction de lui. Il dit un jour qu'il a une origine plus noble que celle qui remonte à David. Sa majesté est plus grande que celle du temple, qu'il compare à la maison de son père. Pour finir, il est le Fils qui est le seul à connaître le Père. Et cette intimité entre l'un et l'autre est telle que, en vérité, le Père et moi, dit-il, nous sommes un. Le Père est en moi, comme moi dans le Père. Jésus, voyez, n'avait pas à dire « Je suis Dieu ». Les Juifs n'auraient pas compris. Mais il a fait comprendre peu à peu qu'il était Fils de Dieu dans un sens rigoureusement unique, qu'il était le Fils unique en face du Père, et qu'il était distinct de lui comme un moi en face d'un toi, mais possédant à égalité les mêmes caractéristiques qui reviennent à Dieu. Quel est le premier pas que nous faisons dans l'intimité du mystère de Jésus? Et les foules ne s'y sont pas trompées. En voyant ces muets qui parlaient, ces estropiés qui redevenaient valides, ces pauvres qui marchaient, ces aveugles qui recouvraient la vue, ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus fait les œuvres du Dieu d'Israël, le seul Dieu. Jésus a donc révélé d'abord son propre mystère, sa filiation et sa relation avec son Père. Mais dans sa dernière conversation avec ses apôtres, alors qu'il souligne une dernière fois la relation tout intime qui l'unit à son Père, Jésus évoque à ce propos un autre que. Le Père est en moi, dit Jésus, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, l'Esprit. Ici encore, le nom prononcé par Jésus en araméen, Koran en grec en disant pneuma, est un nom emprunté à l'Ancien Testament. Et les auditeurs sont habitués à entendre parler de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Yahvé, en hébreu, la Ruah Yahvé. Tout au cours de la vie de Jésus, les évangélistes ont noté l'intervention de cet Esprit. Mais jusqu'alors, on pouvait comprendre par là une sorte de puissance divine manifestant l'action de Dieu lui-même et s'identifiant avec Dieu, en union, du reste avec la parole créatrice. Mais ce qui est nouveau dans la révélation de Jésus, c'est qu'il parle de cet esprit comme de quelqu'un, de même qu'il identifie la parole de Dieu avec quelqu'un qui est le Fils, et finalement Jésus lui-même. L'esprit, c'est un autre paraclet, dit Jésus. Un autre, comme Jésus a déjà été un paraclet auprès de ses apôtres, c'est-à-dire un assistant, un avocat, un défenseur. L'action de cet esprit est mise en parallèle avec celle du Christ. C'est un autre que moi. Et puis, comme si Jésus craignait de ne pas être compris, il insiste. Quand viendra le paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'esprit qui provient du Père, lui, il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous témoignerez parce que vous êtes avec moi. Saint Jean, qui a rapporté les paroles de Jésus, a écrit « Ekeinos », soulignant pour ainsi dire qu'il s'agit de quelqu'un, lui, l'Esprit Saint qui provient du Père, lui, il me rendra témoignage. Pronom personnel, « Ekeinos ». Et c'est ainsi que s'achève la révélation du mystère de Dieu tenu caché jusque-là. Dans les profondeurs du silence de Dieu. Les apôtres ont devant eux Jésus qui dit « Moi » en ayant conscience d'être le Fils unique du Père. Ils ont entendu Jésus s'adresser à son Père en lui disant « Toi, Abba » et ils l'entendent enfin évoquer l'Esprit, c'est-à-dire quelqu'un de qui Jésus dit « Lui ». Un autre que moi. Il s'agit de quelques noms très simples, auxquels s'ajoutent quelques pronoms très simples aussi. Mais dans notre modeste langage humain, c'est l'expression la plus insondable du mystère. Et une seule phrase, peut-on dire, de l'Évangile résume tout. C'est la finale de l'Évangile de Saint Matthieu. Allez enseigner au nom du Père, et du Fils et de l'Esprit Saint. Il s'agit d'enseigner au nom de Dieu, bien entendu, mais c'est de façon équivalente enseigner au nom du Père à qui Jésus dit « Toi », au nom de Jésus lui-même, le Fils qui dit « Moi », et au nom de l'Esprit de qui Jésus dit « lui ». Il est impossible, en d'autres termes, de confondre l'un avec l'autre. Chacun est différent des autres. Aucun n'est l'autre. Mais d'autre part, nommés ensemble sous le seul nom de Dieu, ils sont inséparables, ils sont également Dieu. Ils sont le seul et unique Dieu proclamé par toute la Bible. Et on peut résumer avec quelques mots seulement l'essentiel du mystère. La grande révélation qui domine toute la Bible, c'est qu'il y a un seul Dieu, ou bien Yahvé, Adonai. Et toute la lumière va être incluse dans cette affirmation. Dieu unique, seul Seigneur. Et puis Jésus est donc venu accomplir l'Ancien Testament et révéler ce qui est essentiel à notre salut. Et il a révélé cela avec des mots très simples. Il a d'abord fait comprendre qu'il s'identifiait avec quelqu'un qu'il appelle fils. Ce fils, bien entendu, faisant allusion à quelqu'un qu'il appelle père. Et puis enfin, quelqu'un qu'on appelle esprit. Quelques mots très simples auxquels les auditeurs étaient déjà habitués par l'Ancien Testament, mais des noms auxquels Jésus donne un sens assez particulier. Puis quelques pronoms pour accentuer ce qu'il veut dire. Le Fils, c'est celui qui dit « moi » et dans des circonstances tellement fréquentes et tellement solennelles, on vous a dit cela, « moi, je vous dis », le « moi » de Jésus, qui est au centre vraiment de la révélation. Et le Père, c'est quelqu'un à qui Jésus dit constamment « toi » pour bien montrer qu'il se distingue de ce « moi ». Et puis enfin, l'Esprit, c'est quelqu'un de qui Jésus dit « lui ». Voyez un peu notre parcours. Nous venons de suivre la révélation essentielle de Jésus et nous nous sommes appuyés sur simplement ces mots, ces paroles et la manière dont il a utilisé la révélation ancienne de l'Ancien Testament pour révéler son propre mystère, son identité de fils. Il est le Fils. Le Fils de Dieu, et il révèle qu'il y a trois personnes en Dieu. Cet unique Dieu, donc Dieu, Jésus n'est pas un autre Dieu que le Dieu de l'Ancien Testament. Il n'ajoute rien au monothéisme, et à l'intérieur de la révélation ancienne, du monothéisme, du seul Seigneur, il révèle qu'il y a donc trois personnes. Et je veux terminer en vous rappelant simplement le sondage que Jésus a fait un jour avec ses apôtres, mais il était à Césarée de Philippe. Il a demandé à ses apôtres, que dit-on du Fils de l'homme ? Alors les apôtres ont rapporté ce sondage. Pour les uns, tu es Élie, pour les autres, un prophète. Et Jésus leur a relancé la question, pour vous, alors que dites-vous ? Qui suis-je pour vous ? Et à ce moment-là, Pierre est sorti des rangs, et a pris le devant et a dit « Tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es le Fils de Dieu vivant. » Et Jésus lui a répondu « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car cela ne t'a pas été révélé par la chair et le sang. » Mais par mon Père qui est aux cieux. Eh bien, nous avons, dans cette sainte épisode, dans ce sondage, le resplendissement dans la conscience de Pierre de cette révélation dont nous venons de parler tout à l'heure. Jésus est seul à savoir qu'il est le Fils unique de Dieu. Mais le Père peut faire connaître ce Fils. Et Jésus dit lui-même, nul ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Alors, qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. La foi de Pierre, son acte de foi, est une participation à la connaissance que Dieu a de lui-même. Dieu a une connaissance infinie de la génération du Fils. Le Fils a une connaissance infinie d'être le Fils. Mais cette connaissance infinie que le Père a d'être Fils, il la donne en participation aux hommes. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Plus précisément, la révélation. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père. La révélation, c'est le resplendissement de la vérité divine, et en particulier en ce qui concerne cette intimité des trois personnes divines, ce secret de Dieu tenu caché jusqu'ici dans les profondeurs du silence de Dieu. Le Verbe de Dieu est sorti du silence précisément pour donner part aux hommes à cette intimité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et quand Pierre professe son acte de foi, tu es le Fils du Dieu vivant, il lui dit la vérité, il confesse réellement l'identité de Jésus et il reçoit cette vérité de façon infuse par le Père et le Fils et l'Esprit Saint. Il reçoit cela dans son cœur comme la participation à la science de Dieu, à la connaissance que Dieu a de lui-même, de son propre mystère, la connaissance que le Père a de son Fils. C'est complètement stupéfiant. L'être humain peut recevoir une part de la connaissance que le Père a de son Fils. Connaissance infinie. Le Père connaît infiniment son Fils qui l'engendre éternellement. Nous allons voir cet après-midi que ça le détaille, ce qu'implique la révélation que nous venons d'apercevoir. Eh bien, nous autres, chaque fois que nous faisons oraison, chaque fois que nous nous retirons dans le silence pour prier, nous faisons un acte de foi. Nous prenons la parole de Jésus, nous cherchons son identité et nous croyons. Nous croyons qu'il est le Fils du Dieu vivant, comme Saint-Pierre. Et bien, cet acte de foi est une participation à la connaissance que le Père a de son Fils. Il veut bien nous donner cette part gratuitement. C'est une grâce. C'est une grâce merveilleuse de pouvoir confesser la divinité de Jésus. Et chaque fois que nous faisons oraison, que nous faisons cet acte de foi, comme dit le Père Marie-Eugène, notre acte de foi nous donne le contact avec Dieu lui-même, parce que la vertu est théologale, théos, elle vise et atteint Dieu lui-même, elle saisit et elle touche Dieu lui-même. Et bien, chaque fois que je fais un acte de foi dans la divinité de Jésus, je compare toujours plus intimement à cette intimité justement que le Père a avec son Fils, que le Fils a avec son Père, que le Père et le Fils ont avec l'Esprit Saint. J'entre dans les profondeurs de Dieu, puisque c'est là que le Fils de Dieu est venu m'introduire. Le but de l'incarnation, c'est que nous entrions tous, comme fils de Dieu, comme participants de la nature divine, dans ce bonheur. Alors nous dirons des choses tout à l'heure, cet après-midi, pour préciser tout cela, mais nous pouvons, après cet entretien, nous retirer et continuer, dans le silence de la prière, à adorer le Seigneur Jésus, en reprenant tel ou tel passage de l'Évangile, où nous trouvons que l'identité de Jésus reste vaincue d'une façon merveilleuse par rapport au Père, justement. Des conseils de lecture aussi que nous n'avons pas mis dans le livret des textes de la lecture divine pour vous, mais vous pouvez, si vous voulez, pour ceux qui ont le catéchisme de l'Église catholique à la maison, vous pouvez lire les paragraphes 430 et suivants au sujet du nom de Jésus. Dans le catéchisme, vous allez retrouver certains aspects que nous avons épinglés dans ce petit exposé. Voilà, je vais vous laisser avec Anne-Cécile pour que vous puissiez poursuivre la retraite dans le silence de la prière et surtout plonger dans le mystère de Dieu lui-même, Père qui est l'Esprit Saint. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
Merci Père Claude. Merci pour cet enseignement qui nous introduit vraiment dans le mystère de Dieu notre Père, de Jésus, son Fils, qui est Dieu, de l'Esprit Saint qui vient nous le révéler au plus profond de notre cœur. Alors pour nous aider à entrer dans ce temps d'oraison, ce temps de prière personnelle, Marie-Françoise va nous donner quelques pistes, quelques conseils pratiques aussi pour nous aider à vivre en ce temps d'oraison, que nous soyons ici à la chapelle de Pignolet ou chacun chez soi dans son appartement.